agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
À la demande de la municipalité de Chicago, le gouvernement fédéral et plus particulièrement le ministère des Finances ont décidé de lancer une opération exceptionnelle pour endiguer le trafic d'alcool et la violence qui en découle.
Monsieur Ness,
et en
pourquoi
a consisté cette opération? Assisté d'autres fonctionnaires des Finances, je travaillerai en coordination avec les services.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. On a appris cet été qu'en Inde, le gouvernement nationaliste du Maharashtra, dont Bombay est la capitale, manifestait l'intention de bannir radicalement l'alcool de tout son territoire. Prohibition. Prohibition. Le mot fait ressurgir soudain dans nos mémoires une foule d'images américaines remontant aux années 1920 et qui mêlent les imprécations de divers pasteurs évangélistes contre le vice aux multiples hypocrisies d'une société qui mêle le puritanisme aux ivresses dissimulées, la vaillance des incorruptibles d'Eliot Ness au cynisme sanglant d'Al Capone, l'obsession de la santé publique aux angoisses d'une criminalité sans rivage. La prohibition, que le président Coolidge a appelé un jour « la plus grande expérience sociale des temps modernes », s'est soldée par un échec retentissant et a eu beaucoup d'effets pervers. Mais il ne suffit pas, en dialogue entre hier et aujourd'hui, de s'étonner qu'à Bombay, on ait oublié Chicago. On ne peut qu'être d'autre part attentif aux arguments de tous ceux qui souhaitent voir légaliser, par les temps qui courent, les drogues dites « douces », le cannabis notamment, en évoquant le précédent de l'alcool interdit jadis de l'autre côté de l'Atlantique et pourtant omniprésent en coulisses. L'alcool de tous les trafics, l'alcool devenu bien plus néfaste au profit de tous les dérèglements de la société que celui qu'on pouvait vendre et consommer au grand jour et que l'État était à même de taxer très fructueusement. Pape Ndiaye, professeur d'histoire américaine à Sciences Po, est à mon micro ce matin pour éclairer ses rapprochements. Et comme il est l'auteur d'un beau livre sur Chicago, Chicago dans la longue durée, sa présence s'impose au cœur du week-end que notre chaîne consacre à cette ville, qui est en vérité sans pareil.
Chicago, c'est un pays charmant. Chicago, c'est un rêve troublant. La ville sur les grands lacs est la ville où l'on n'a pas le trac. Si en France on voit petit tout le temps, je vous jure que là-bas on voit grand. En 10 secondes, un petit cochon devient une tonne de saucissons. En un quart d'heure, on fait, c'est beau, une maison de 100 mètres de haut. Ah, qu'on est bien à Chicago, quand on aime boire que de l'eau. Pas de pernaud, pas de picon, le plus petit mandarin citron. Comme on boit de l'alcool de bois, on a tout le temps la gueule de bois. Pour rire, on en fait des copeaux. Ah, qu'on est bien à Chicago. Dans la rue, on passe tranquillement. Tout à coup, pan, 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 pan. Ce n'est rien, ce sont des gangsters qui essaient leur gros revolver. Si on reçoit une balle au bon endroit, on s'écrie « merci de penser à moi ». On a si peur d'être tué que l'on dit « faut pas vous gêner ». Une seule balle, oh, c'est bien peu, la prochaine fois tirez-en deux. Ah, qu'on est bien à Chicago, mais pour sauvegarder sa peau, on ne sort qu'avec un bouclier, une chemise en tôle d'acier. Soir, on s'endort sans être certain, se réveiller le lendemain matin, entier ou en petits morceaux. Ah, qu'on est bien à Chicago.
Pabndiaï, bonjour.
Bonjour.
Ah, qu'on est bien à Chicago. Cette chanson de Lionel Cazou et Gabriello, interprétée ici par Gaston Gabaroche, remonte à 1933, c'est-à-dire qu'elle est à peu près concomitante avec la fin de l'expérience de la Prohibition. Elle oui. clôt un chapitre, non sans stéréotypes bien sûr et sans clichés, mais en l'occurrence les clichés nous renseignent sur certaines vérités.
Dans le monde entier, à cette époque-là, au début des années 30, Chicago fait figure de capitale de la pègre, du crime organisé. C'est la ville d'Al Capone, c'est la ville où les contrebandiers d'alcool, puisque la ville est à proximité immédiate avec la frontière canadienne, ont force de loi, sont en proximité avec la police, avec la mairie.
D'ailleurs, Tintin en Amérique, à peu près au même moment, nous le dit également.
Voilà, et c'est aussi, comme on l'entend dans la chanson, la ville des gratte-ciels, la ville des abattoirs. Donc c'est cette grande ville que chacun connaît sous un angle plutôt négatif. C'est une ville qui paraît très dangereuse aux yeux des Français au début des années 30.
Qu'est-ce que c'est que l'alcool de bois dont parle la chanson ?
C'est un alcool frelaté à base de méthanol qui est produit pendant la Prohibition de façon illégale, bien sûr, et qui a d'ailleurs des effets catastrophiques sur la santé des buveurs. Il y a de très nombreux morts pendant la Prohibition en raison de la consommation de ce genre d'alcool. On a calculé qu'environ 10 000 Américains étaient morts entre 1920 et 1933, suite à la consommation d'alcool frelaté.
Donc, ce sont surtout les pauvres qui souffrent des effets pervers de la loi sur l'alcool, ce qui a été dit d'ailleurs à l'époque.
En effet, l'alcool peu cher, celui qu'on trouve dans les bars clandestins les plus modestes, les fameuses speakeasies, ce sont ces bars clandestins qui existaient déjà avant 1920. Cela fait référence probablement au fait qu'il s'agit de parler doucement. « To speak easy » en anglais, c'est parler doucement, ça peut aussi faire référence au fait que l'alcool libère la parole et que donc on parle peut-être de façon plus éloquente avec un verre ou deux de whisky. Et donc, en effet, les pauvres avaient accès à un alcool peu cher, frelaté, souvent très dangereux, par opposition aux classes plus aisées qui, elles, pouvaient entasser des réserves de whisky, de bière et d'autres alcools, et puis se procurer également des alcools de bonne qualité au Canada ou bien à Cuba.
Nous nous trouvons d'entrée de jeu au cœur de la problématique de ce sujet, de la prohibition, avec les intentions très très pures et des effets très néfastes. La vertu par la loi, c'est un cas assez rare où on veut imposer non seulement un fonctionnement harmonieux de la société par la législation, mais même obliger les citoyens à se comporter de telle ou telle façon. Il faut remonter en arrière à la spécificité de la société américaine qui a donné naissance à cette étrange prohibition.
Oui, on peut même remonter à la Révolution américaine. Lorsque les pères fondateurs sont soucieux de construire une république débarrassée des mœurs problématiques de l'époque coloniale, songe à restreindre la consommation d'alcool.
Contradiction déjà, puisque Washington ou Penn, le fondateur de la Pennsylvanie, William Penn, faisait déjà de l'alcool eux-mêmes avec des alambics importés. Et que je vois que Jefferson n'hésitait pas à faire traverser l'Atlantique à d'excellents vins de Bordeaux par la valise diplomatique.
Oui, Jefferson, qui avait été ambassadeur à Paris, était grand amateur de vins français. Et de fait, on consomme beaucoup d'alcool aux États-Unis au début du 19e siècle. Des alcools comme de la bière, du cidre, mais aussi du whisky en très grande quantité. D'ailleurs, dans des proportions qui souvent étonnent les voyageurs européens, l'alcool est peu cher, facilement à disposition, ce qui permet ou donne l'idée de créer des sociétés souvent religieuses, des associations qui visent à la tempérance. Hein, c'est ce fameux mot qui est utilisé au XIXe siècle, plutôt que la prohibition. La tempérance, c'est moins l'interdiction de la consommation d'alcool que sa limitation, que sa consommation raisonnable.
On peut constater que dès 1839, un voyageur anglais, resté anonyme, écrit à propos de la consommation d'alcool aux États-Unis. Je remarque que les Américains ne peuvent conclure des affaires sans boire. Un rendez-vous et on boit. Si on s'amuse, on boit. Si on fait connaissance, on boit. Si on signe un contrat, on boit. On se querelle en buvant et on se réconcilie en buvant. Les Américains boivent parce qu'il fait chaud ou bien parce qu'il fait froid. Ils boivent pour fêter la victoire aux élections ou pour oublier la défaite. Ils commencent à boire tôt le matin, jusque tard le soir. Ils s'y mettent très tôt dans la vie et continuent jusqu'à rouler dans la tombe. Fin de citation. Alors, dans la même ligne que celle de ce voyageur anglais, on peut écouter Geneviève Tabouille qui parle de l'Amérique et de ses relations avec l'alcool. Avec souvent chez elle, vous allez voir, un mélange de clichés et de propos qui sont marqués par une analyse assez fine. C'est un extrait de l'heure de culture française consacrée à la prohibition le 2 novembre 1951. Je vous rappelle que Geneviève Tabouille, ça a été une grande chroniqueuse de relations internationales. C'était la nièce des diplomates Jules et Paul Cambon. Et on disait à cause de ça qu'elle était souvent sous la table. Non pas pour des raisons liées à l'alcool, mais du fait de sa curiosité particulière. Écoutons-la.
Français est frappé par la place que le whisky tient dans la vie familiale, mondaine et laborieuse aux États-Unis. Il l'est encore bien davantage lorsqu'il réalise la raison pour laquelle l'Américain boit. Oh, il ne boit pas du tout comme l'Allemand qui absorbe gravement ses bocs de bière, ou le Français qui déguste amoureusement son vin, ou le Russe qui engloutit sa vodka, ou encore l'Anglais qui avale son whisky. Mais l'Américain boit comme l'Asiatique fume l'opium. Alors qu'en Orient, l'usage des stupéfiants a pour but de rechercher les paradis imaginaires, les nirvanas nébuleux, en Amérique, le whisky doit permettre à l'Américain de sortir de lui-même, de devenir un autre homme pour lequel les préoccupations quotidiennes n'existent plus. Il cherche dans le whisky l'oubli de l'âpre lutte pour la vie, le remède contre ce curieux ennui qui assaille chaque Américain et dont l'origine est l'impuissance de parvenir à renouveler perpétuellement et du tout au tout le panorama de sa vie et celui de ses affaires. Partout, sans jamais oser l'avouer, l'Américain cherche aussi dans l'alcool la libération d'une certaine emprise puritaine que lui imposent les traditions et les lois d'une société demeurée prude. Ce qui d'ailleurs donne un côté curieux au flirt en Amérique, ce dont nous parlerons une autre fois ici même. En tout cas, pour l'Américain, tout ce qui se dit et se fait sous l'emprise de l'alcool ne rentre pas dans le cadre du réel. Et ceci est bien un phénomène auquel les Français ont quelque peine à s'habituer. Mais en Amérique, on boit avec « à propos », c'est-à-dire « after business is over ». C'est-à-dire, une fois que la journée de travail est finie, jamais avant.
Alors, Pam Diaye, est-ce que ce propos vous paraît bienvenu, vous paraît fidèle à une réalité américaine de la fin du 19e siècle ?
On boit beaucoup aux États-Unis à la fin du 19e siècle, et je ne suis pas sûr que ce soit seulement le soir, tant les saloons, en particulier le dimanche, joue un rôle important dans la sociabilité des immigrants.
Le saloon, c'est le lieu majeur de la consommation. On le voit évidemment dans les westerns, mais il y en a des dizaines de milliers aux États-Unis d'Amérique.
Oui, dans les grandes villes, pas simplement dans l'ouest des États-Unis. Ce sont ces bars, ces cafés où l'on se retrouve, où l'on consomme de la bière et du whisky, et où des réunions politiques ont lieu, des clubs, des associations se créent. Donc les saloons jouent un rôle très important dans la vie sociale et politique des immigrants, particulièrement des immigrants irlandais et allemands. Il y a des émeutes autour du whisky et de la bière à Chicago, par exemple, dans les années 1850, lorsque la mairie s'avise d'interdire l'ouverture des saloons le dimanche pour ne pas faire concurrence aux églises.
Ça montre l'importance de l'aspect moral dans le refus de la consommation de l'alcool. C'est un ressort majeur de la lutte contre la consommation de l'alcool. Je vois qu'il se crée en 1869 le Parti national de la prohibition. C'est la première organisation qui travaille dans ce sens et qui diffuse une adresse au peuple américain. L'esclavage a disparu, l'ivrognerie subsiste. Il n'est guère de remède contre l'ivrognerie que dans une abstention totale de toute liqueur alcoolisée. C'est vraiment le tout ou rien. L'alcool, cette abomination, regard moral, est la menace majeure contre les personnes et les biens, car il est le fabricant par excellence des incendiaires, des démons et des meurtriers. Fin de citation.
Oui, les églises, particulièrement les églises protestantes, sont très mobilisées dans les mouvements de tempérance et puis de prohibition après la guerre de sécession, et les prédicateurs religieux, quelques années plus tard, le fameux Billy Sunday au début du XXe siècle, annonce avec la fin de l'alcool la fin des problèmes sociaux, de la criminalité, etc. Donc, en effet, ces mouvements religieux sont importants, et dans ces mouvements religieux, les femmes sont particulièrement mobilisées. Elles l'avaient été beaucoup sur la question de l'esclavage avant la guerre de sécession. Après la guerre, elles se mobilisent du côté de la prohibition, de l'interdiction de l'alcool, en estimant que les ménages, particulièrement ouvriers, sont détruits par l'achat et la consommation d'alcool.
Billy Sunday, que vous évoquiez il y a un instant, qui est le plus populaire des évangélistes au début des années 20, annonce à Norfolk, en Virginie, il annonce « Fini le règne des larmes ». Dès lors que la prohibition va être votée, les taudis ne seront bientôt plus qu'un souvenir. Nous transformerons nos prisons en usines, nos geôles en entrepôts et en granges. Dorénavant, les hommes auront la tête haute, les femmes souriront, les enfants riront. L'enfer peut à jamais afficher la pancarte à louer.
Billy Sunday s'est beaucoup avancé dans les promesses qu'il a faites à propos de la prohibition, mais ça ne concernait pas simplement les religieux, les prédicateurs comme lui, mais aussi tout le monde socialiste, progressiste du début du XXe siècle, qui lui aussi militait contre l'alcool qui détruisait le monde ouvrier. Et donc, le mouvement de prohibition, qui prend de l'ampleur à la fin du XIXe siècle, rassemble des courants politiques extrêmement divers, parfois complètement opposés, du socialisme anarchiste jusqu'aux religieux très conservateurs du sud ou de l'ouest des États-Unis. Et puis, la Première Guerre mondiale fournit l'occasion, finalement, d'avancer juridiquement sur la question.
Si on fait un rapprochement avec les campagnes qui se développent aujourd'hui à propos du cannabis, pour la fin de l'interdiction, on constate que, en l'occurrence, ce sont plutôt des familles d'esprit de gauche qui vont dans ce sens, et que la droite reste plus conservatrice. Il n'en va pas de même à l'époque pour l'alcool aux États-Unis.
Sauf que du côté du cannabis, il y a un courant qu'on appelle le courant libertarien, du côté du Parti républicain, des très conservateurs, qui est d'ailleurs représenté dans les primaires républicaines, qui milite lui aussi pour la dépénalisation du cannabis, mais c'est un courant relativement mineur dans le monde conservateur américain. À l'époque, en effet, le monde religieux est massivement mobilisé sur la question de la prohibition aux États-Unis.
Vous parliez du rôle des femmes. Il y a un féminisme américain qui s'attache à la tempérance ou à la prohibition. Et on voit se mêler de façon intéressante les deux efforts pour donner les droits civils et civiques aux femmes, d'un côté, et de l'autre, pour interdire la consommation de l'alcool.
Les clubs de tempérance, de prohibition qui sont créés au XIXe siècle aboutissent à la formation de ligues nationales dans les dernières années du XIXe siècle, ligue où les femmes se rassemblent, où la question des droits politiques est posée. Elle est liée d'ailleurs à la prohibition, puisque pour beaucoup de militantes suffragettes, la possibilité de voter sera la possibilité aussi d'influer sur la vie politique américaine et donc d'obtenir des changements comme ceux qu'elles souhaitent avec les lois de prohibition.
On retrouve une image qui est également très, très présente en Europe, c'est l'assommoir de Zola, la femme qui, avec ses enfants, est condamnée à la faim, à la misère, parce que son homme consomme tout au bar. Aux États-Unis, c'est le saloon. C'est ce qu'évoque une chanson que je vais vous faire entendre, qui s'appelle « I saw a man at the close of day ». J'ai vu un homme à la fin du jour, qui est ici interprété par Tom Paley, et je pense que vous consentirez, Pam Diaye, après, à nous donner une traduction, même ramassée, de ce qui s'y dit.
I saw a man at the close of day standing round the grocery door. His eyes were sunk, his lips were parched, and I viewed him o'er and o'er. Thank you. stood by his side, and unto him he said, "Oh, father, mother, sick at home, and sister cries for bread." He turned around, went in at the door, he staggered up to the bar, and faltering unto the landlord said, "Just give me one glass more."
Alors, que nous dit cette chanson folk, Pape Ndiaye?
Elle raconte la triste histoire de ce père de famille alcoolique que le narrateur rencontre. Et puis, un peu plus tard, il est mort.
Le corbillard passe.
Le corbillard passe, la famille est dispersée. Et donc là, on a rassemblé un argument qui est un argument classique de la fin du 19e, du début du 20e siècle sur les catastrophes sociales induites par la consommation d'alcool.
Alors la Ligue Anti-Saloon, qui va être aussi influente et qui va être en particulier animée par des femmes, qui est fondée en 1893, est également grossie par un certain nombre d'inquiétudes concernant l'arrivée de nouveaux immigrants qui risquent d'introduire avec eux l'alcool. Il y a la xénophobie dans les mouvements qui travaillent à la prohibition.
Oui, dans ces mouvements, il y a fréquemment une dimension qu'on appelle nativiste aux États-Unis, c'est-à-dire une dénonciation des immigrants, particulièrement ceux qui viennent d'Europe de l'Est ou d'Europe du Sud à cette époque.
On le voit dans le film Gangs of New York, voilà, où ils sont très nombreux. S'oppose aux Irlandais de la façon la plus brutale possible.
Voilà, quelques années avant les Irlandais et les Allemands, on les dénonce comme étant impropres à s'installer et à s'intégrer dans la société américaine, et on dénonce leurs mœurs alcoolisées. Le langage de la prohibition est un langage qui est bien accueilli du côté des Américains installés là depuis longtemps et qui se heurtent à la résistance très forte des consommateurs d'alcool, nombreux dans les saloons dont on parlait, qui eux sont souvent des immigrants dans les mondes ouvriers des grandes villes américaines.
On voit à la fois ceux qui combattent le vice européen se révolter, et d'autre part ceux qui, du côté des ouvriers, craignent une concurrence propre à faire baisser les salaires. Tout cela se conjugue. Je vois qu'un défenseur de la prohibition en 1908 explique que l'alcoolisme serait un produit d'exportation de l'Europe. Et une Europe misérable, accablée par la guerre, la famine et la maladie, nous envoie ses buveurs, ces fabricants d'alcool, ces faiseurs d'ivrognes, ou bien ces buveurs plus modérés mais réguliers. Les voilà comme cibles à leur tour, avec leurs idées non américaines et anti-américaines sur la moralité et les affaires publiques. Ils sont absorbés dans notre vie nationale, mais point assimilés, dépourvus de toute liberté dans le pays d'où ils viennent. Ils réclament une liberté illimitée chez nous. Je crois que c'est une composante majeure du succès des prohibitionnistes.
Voilà, et dans ce discours se mêle, discours à forte tonalité xénophobe, opposé aux immigrants, un argument moral relatif à leur consommation excessive d'alcool, et puis un argument politique, puisque ces immigrants sont réputés être extrémistes, socialistes, anarchistes.
Plus la maladie aussi, parce que c'est un temps où on est obsédé par la dégénérescence.
Oui, Ellis Island, le grand centre d'arrivée des immigrants en provenance d'Europe, qui ouvre à l'extrême fin du 19e siècle, eh bien, on trouve à Ellis Island des médecins qui font passer des visites médicales, psychiatriques aussi, des tests d'intelligence, et puis on essaie aussi de détecter ceux qui seront impropres à subvenir à leurs propres besoins, c'est-à-dire les alcooliques, ceux qui n'ont pas à rester aux États-Unis et qui seront renvoyés par le prochain bateau.
Alors il faut comprendre pourquoi et comment la Grande Guerre, où les Américains s'engagent à partir de 1917, peut également provoquer un effet d'accélération au profit des tenants de la prohibition.
Une accélération, puisque le mouvement de prohibition a déjà commencé. Le Kansas, par exemple, dès 1881, interdit la consommation d'alcool.
Oui, il faut savoir que la prohibition naît progressivement dans cet État fédéral.
Dans les différents États, avec localement, comme dans le Kansas, des ligues de prohibition particulièrement actives qui poussent les hommes politiques locaux, les congrès locaux à agir en ce sens, de telle sorte qu'au début de la Première Guerre mondiale, de nombreux États avaient déjà restreint, sinon la consommation d'alcool, à tout le moins la vente, la production d'alcool. Et puis en effet, c'est la Première Guerre mondiale qui fournit un coup d'accélérateur définitif avec... D'une part, l'ennemi allemand qui est pointé du doigt. Il y a une forte vague anti-allemande. On change les noms d'origine allemande. Les Américains d'origine allemande sont inquiétés. Le fameux chef d'orchestre de New York, par exemple, et bien d'autres. Il y a même le meurtre d'un jeune immigrant allemand dans la région de Chicago en 1916. Tout cela crée un climat propice à la prohibition, puisque les Allemands sont réputés être grands buveurs de bière.
Les brasseries portent souvent des noms allemands. En plus.
Oui, tout à fait. Milwaukee, la grande ville allemande aux États-Unis, qui est située dans le Wisconsin, était la grande ville productrice de bière. Et donc, les mouvements de prohibition se trouvent en quelque sorte portés par l'élan patriotique qui commande à la fois de se mobiliser contre l'Allemagne, mais aussi contre les vices de l'Allemagne, c'est-à-dire contre l'alcool. Et puis la place importante des femmes aussi pendant la Première Guerre mondiale, qui occupent des positions dans le monde du travail qu'elles n'avaient pas et qui dès lors favorisent leurs demandes du côté de la tempérance, de la prohibition, mais aussi du côté de l'obtention du droit de vote.
Et puis qui s'inquiètent aussi de ces hommes qui ont été mobilisés et qui risquent d'être influencés par la perversité de l'Europe, cette Europe de l'alcool.
Voilà, et qui reviendraient alcoolisés de leur séjour en Europe. Et puis il faut ajouter que pendant la guerre, il y a des restrictions sur un certain nombre de produits agricoles, le grain et d'autres choses qui servent justement à produire de l'alcool. Donc il y a un argument en quelque sorte économique dans la restriction de la production d'alcool de la Première Guerre mondiale.
Comment est-ce que ce 18e amendement et puis cette loi Volstead, ce sont les deux moments forts de l'introduction de la prohibition aux États-Unis, comment est-ce que ça se passe?
Donc le Congrès se saisit de la question de la prohibition dès la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a des voix très éloquentes qui militent en ce sens du côté du Sénat ou de la Chambre des représentants. Et une majorité est trouvée pour voter le 18e amendement en 1919, 18e amendement qui fournit un cadre général sur l'interdiction de la production, de la vente et du transport d'alcool. La loi Volstead, qui suit le 18e amendement, précise l'application de l'amendement, précise également ce qu'on entend par boisson alcoolisée, à partir de combien de degrés d'alcool. Donc la loi vient compléter le 18e amendement qui entre officiellement en vigueur le 17 janvier 1920, un an après le vote de l'amendement.
Mais il y a une sorte de contradiction et peut-être d'hypocrisie. Je veux dire qu'on a le droit de consommer l'alcool chez soi, mais si on ne peut pas se le procurer, alors c'est étrange.
Oui, c'est bien étrange, puisque en effet, on peut consommer ou même garder de l'alcool chez soi, mais on ne peut pas l'acheter, encore moins le produire ou le transporter. De telle sorte que dans les jours et dans les semaines qui ont précédé la prohibition, fin 1919, début 1920, les Américains se précipitaient chez les marchands d'alcool pour constituer des réserves très importantes. Les Américains qui avaient de l'argent se faisaient des réserves pour de nombreuses années. Les membres du Congrès, par exemple, on estime que 80% des membres du Congrès américain en 1920 avaient constitué chez eux, ou même de manière plus commode, directement au Capitole à Washington, des réserves de bière et d'alcool en tout genre pour tenir le coup.
À telle enseigne que le président Harding, disait-on, ne détestait pas le soir un bon whisky tout en jouant aux cartes, et que le président de la Ligue pour la Prohibition, la Ligue contre les saloons, ne manquait pas régulièrement de venir lui faire la morale. Il écoutait gentiment et puis il s'en tenait à ses habitudes chéries.
Oui, lorsque Harding a été élu, il a fait transférer de son domicile privé à la Maison Blanche une quantité invraisemblable de whisky et d'alcool variés pour consommer avec ses amis grands joueurs de poker, ce qui illustrait jusqu'au sommet de l'État le caractère hypocrite et très ambigu de cette loi sur la prohibition, loi qui, dans les mois, dans les premiers temps de son application, a mis en exergue le fait que les Américains n'étaient pas dupes sur le fait que les puissants, les hommes politiques en particulier, échappaient à la rigueur de la loi et pouvaient consommer de façon tout à fait libre finalement.
C'est là qu'on est aussitôt confronté à une donnée majeure, c'est que l'inventivité des Américains est extrême pour échapper à la législation et qu'en même temps, ces décisions prises donnent un formidable coup de fouet à la délinquance organisée, à celle des gangs, tout ce qui est à Chicago incarné par la personnalité d'Al Capone. Au fond, il y a d'un côté un problème de santé, vu comme tel en tout cas, et de l'autre, un énorme problème de criminalité, avec affrontement brutal entre ces deux préoccupations sociales.
On se procure de l'alcool par tous les moyens possibles. D'abord par l'alcool frelaté, alcool dont on sait les ravages qu'il a pu faire dans la population américaine à ce moment-là, mais aussi par le grand développement de dispositions qui constituaient des exceptions à la loi, à savoir la production et la consommation de vin à des fins religieuses. Le vin de messe a un succès énorme, le vin cacher aussi. La Californie en particulier se spécialise dans la production de vin de messe.
Et puis il y a aussi le vin supposé propre à guérir les maladies. Les médecins sont sollicités, les ordonnances médicales augmentent de façon vertigineuse.
Les ordonnances médicales pleuvent pour conseiller, ordonner même la consommation de whisky ou de bière à qui on prête des vertus qui étaient jusque-là inconnues.
L'alcool est vraiment omniprésent, il est vendu par une foule d'acteurs de cette petite délinquance, les cireurs de bottes, les chauffeurs de taxi, les coiffeurs, le personnel des hôtels, celui des bains publics, notamment les bains turcs, les droguistes, les marchands de légumes, etc. Et puis, on le transporte de diverses façons. Je vois les livres sont évidés, il y a des cannes qui sont creuses. Ce n'est plus pour avoir une épée dedans, mais c'est pour y transporter de l'alcool. Des bottes à semelles à double fond, des manchons de dames, ça c'est une très bonne idée. Des poussettes de nourrissons, etc.
L'imagination de ceux qui transportent l'alcool est sans limite. Au-delà de ces livres creusés pour abriter des bouteilles, il y a un trafic qui est un trafic de masse, par exemple, entre le Canada et les États-Unis. La frontière est si longue que les agents du FBI, qui sont au nombre de 1500 environ, ne peuvent pas y faire grand-chose.
1500 seulement.
Oui, pour l'ensemble du pays.
Elliot Ness est peu pourvu, finalement, de personnel.
Voilà, c'est tout à fait marginal, de telle sorte que des quantités gigantesques d'alcool traversent la frontière sous la forme la plus classique qui soit, c'est-à-dire celle de grosses barriques remplies de whisky ou de bière. En particulier, on pense que moins de 10% de l'alcool qui circulait aux États-Unis pouvait être saisi par les forces de l'ordre. Donc, dans l'ensemble, un gigantesque marché permet aux Américains de boire, certes moins qu'avant la prohibition, peut-être que la consommation est divisée par deux dans les années 20, mais ça reste tout de même important et, comme vous le disiez, cela favorise le crime organisé, les recettes, les taxes qui profitaient auparavant aux villes ou aux États tombent désormais dans l'escarcelle des chefs des différentes mafias.
À telle enseigne qu'à l'époque, on raconte que le prince de Galles, qui est en visite aux États-Unis en 1925 et à qui on demande son avis sur la prohibition, répond « Magnifique, magnifique, elle commence quand ?»
Voilà, il y avait toutes sortes de boutades et de bons mots à propos de la prohibition. On pouvait aussi dire parfois que la différence entre l'époque de la prohibition et l'époque précédente était que pendant la prohibition, au moins on pouvait boire le dimanche. Référence au speakeasy qui était ouvert tous les jours de la semaine. Donc on boit beaucoup pendant la prohibition et puis il y a aussi l'excitation de la transgression dans les speakeasies, le fait que l'on...
C'est excitant, Pam Diaye ?
Il me semble, en effet. D'ailleurs, beaucoup de ces bars clandestins ont continué leurs affaires après 1933, parce que ce sont des lieux qui sont des lieux agréables, chaleureux. Il y en a même encore quelques-uns, figurez-vous.
Même à Paris,
à New York, à New York ou à Chicago, avec la fameuse sortie de secours qui permettait de partir rapidement en cas d'irruption des forces de l'ordre. Ça arrive assez rarement, en vérité, puisque les policiers pouvaient être corrompus, payés pour fermer les yeux sur des activités qui se faisaient dans les fêtes au vu et au su de tout le monde.
Alors, venons-en directement à cette criminalité qui fleurit spécifiquement à Chicago, j'allais dire votre Chicago, puisque vous en avez raconté l'histoire, Pam Diaye. Écoutez donc cet étrange témoignage d'un Français qui, dans ses années 20, a été dans la bande d'Al Capone et qui raconte ses impressions beaucoup plus tard. C'est dans la Tribune de l'Histoire. Il avait été déniché par André Castelot et Alain Decaux. La Tribune de l'Histoire, le 22 novembre 1954. C'est pas seulement un témoin de la Prohibition, pas seulement un témoin du crime, c'est aussi un acteur, vous allez voir. Camille Ferry Pisani. Ferry, F-E-2-R-I.
Ayant à écrire un reportage sur la prohibition des boissons alcooliques aux États-Unis, je m'étais embauché en 1924, non pas comme noble, ce qui signifie tueur, mais comme simple rum runner, c'est-à-dire contrebandier, dans l'organisation Capone, le grand bootlegger américain. Que d'aventures extraordinaires à cette époque! J'avoue que bien que peureux par nature, j'ai trouvé dans cette existence d'hors-la-loi amateur des émotions intenses. En voici une. Un soir d'octobre 24, c'était un 13, nous rentrions à Chicago avec des vins et du cognac de France débarqués à Saint-Pierre-et-Miquelon, puis amenés jusque dans la rivière de Toledo où nous les avions chargés sur 6 camions. Opération de tourpeau, notre itinéraire de contrebande étant fixé d'avance par le chef des agents fédéraux lui-même à la solde d'Al Capone. Cependant, cette fois, comme nous approchions d'Edon, sur la frontière de l'Ohio, notre camion de tête donna presque du radiateur dans un tronc d'arbre barrant la route. Nous étions entourés d'une douzaine de soldats portant l'uniforme de la garde nationale. « Hold them up !» Nous avions ordre de ne pas résister aux officiels, nos habituels complices. Nous levâmes les bras, encore que notre gorille, c'est-à-dire notre contremaître, protestait. « Il y a méprise, nous sommes de l'organisation Capone. Qu'est-ce que vous allez prendre comme engueulade par vos chefs ?» Sans répondre à ces sarcasmes, les soldats nous avaient fouillés et débarrassés de nos armes. C'est à ce moment qu'à la clarté de la lune, j'aperçus sortant d'une guêtre d'ordonnance mal ajustée l'empeigne d'un soulier verni, un soldat en soulier. Foudroyante, une association d'idées s'était formée en moi. Et si ces hommes en uniforme étaient non pas des soldats, mais des tueurs à la solde du North Side de Chicago, ce gang redoutable en rivalité commerciale avec notre organisation, qu'ils venaient défier jusque dans Cicero, fief pourtant d'Al Capone. D'un bond, j'avais sauté dans les broussailles qui bordaient la route en contrebas et je disparus dans la nuit. Je courais à perdre haleine vers Edon, d'où Quelcoto me ramènerait à Chicago, seul survivant, d'une équipe de 14 hommes, car c'était bien des membres du North Side Gang qui avaient arrêté mes compagnons, les avaient désarmés et exécutés. On ne retrouva même pas les cadavres, jetés à l'eau, incinérés plutôt. Quant aux 6 camions de vin de France, ils furent distribués sur le territoire du gang du North Side. Peut-être trouvera-t-on étrange qu'un ancien membre de l'organisation Capone fasse l'éloge des mesures anti-alcooliques prises par Mendes France. Une explication à mon attitude, c'est que je n'ai jamais bu que de l'eau, ce qui me vaut de posséder à 70 ans une vitalité physique, intellectuelle et morale que je n'avais pas à 30 ans. Je traite d'ailleurs de cette abstinence et de quelques autres dans mon prochain livre « Comment ne pas vieillir ».
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Voilà un homme, Pam Diaye, qui a l'art de vanter ses propres ouvrages. C'est probablement un vrai témoignage, à moins que ce soit un peu inventé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il parle assez juste sur l'équilibre des forces qui sont au cœur de ce crime organisé, fruit direct de la prohibition. Le crime existait auparavant, mais c'est joué petit bras.
Oui, puisque la vente d'alcool devient une des ressources financières principales du crime organisé.
Plus que le jeu, la prostitution,
le racket. Plus que le jeu, certainement, autant que la prostitution et d'autres activités criminelles. Le témoin ou l'acteur fait allusion à cette fameuse guerre des gangs à Chicago entre les Italiens d'Al Capone, à Cicero, donc dans les quartiers ouest de Chicago, et puis les Irlandais de Bugs Moran, du North Side, dans les quartiers nord de Chicago, qui sont éliminés lors du fameux massacre de la Saint-Valentin en février 1929. La question du monopole de la vente d'alcool à Chicago est une question absolument essentielle, puisque des revenus gigantesques sont liés à cela, même si Al Capone est finalement un gangster d'envergure régionale. Il n'a pas l'envergure nationale d'un Meyer Lansky, par exemple, grande figure autrement plus importante qu'Al Capone, et qui lui aussi tire des revenus du côté de la vente de boissons alcoolisées. Et puis il y a une deuxième question qui est posée là, c'est celle de la corruption des forces de police, de la corruption du monde politique. À Chicago particulièrement, la police est profondément corrompue. Le maire Big Bill Thompson, grande figure politique de l'époque, est à tu et à toi avec Al Capone. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres villes américaines, particulièrement des villes frontalières où le commerce de contrebande est important, comme Detroit, par exemple, qui est un peu l'équivalent de Chicago à cette époque du point de vue de l'importance du commerce de contrebande.
C'est aussi pourquoi les États-Unis, pour faire refluer ce crime organisé, sont obligés d'envoyer des agents fédéraux qu'incarne Elliot Ness. On est curieux de savoir comment Al Capone, même si vous minimisez son importance relative, il demeure une légende, comment Al Capone a pu réussir à vaincre ses adversaires dans ce combat sans merci.
Il est initialement le lieutenant de la grande figure de la pègre de Chicago, Jim Colosimo, qui est éliminé assez rapidement au début des années 20. Et lui, il se lance alors dans les affaires sous son propre nom. Il est très malin, Al Capone, puisque d'abord, il profite de la prohibition en investissant massivement du côté de la contrebande d'alcool. Chicago est une ville frontalière et donc en traversant le lac Michigan, on peut se procurer de l'alcool très facilement. Et il réussit à contrôler l'ensemble de la chaîne, si je puis dire, depuis l'achat d'alcool au Canada jusqu'à la vente dans les bars clandestins, dans les nombreuses speakeasies de Chicago.
Avec du 1000% de bénéfices.
Avec des bénéfices absolument gigantesques qui sont à peine grignotés par des actions de police ou bien des moments un peu spectaculaires lorsque le maire veut taper du poing sur la table et qu'il ordonne à ses agents, pour la presse en particulier, pour quelques photographies opportunes, de donner des coups de hache dans les barriques pour donner l'impression que l'on fait quelque chose. Dans l'ensemble, le commerce d'alcool poursuit sans difficulté jusqu'en 1933.
C'est là qu'on rejoint d'ailleurs le parallèle possible avec la drogue aujourd'hui, avec en tout cas les drogues douces, et qu'on retrouve les campagnes pour légaliser, comme c'est le cas dans certains pays européens, la consommation et le commerce de la drogue.
Oui, c'est le cas du cannabis aux États-Unis en particulier, puisque la première loi interdisant le cannabis, celle de 1937, un peu après d'ailleurs la fin de la prohibition aux États-Unis, a été supprimée dans les années 70, mais surtout que plusieurs États, au nombre de 4 actuellement, dans l'ouest des États-Unis, ont mis fin à la prohibition du cannabis, sans compter une quinzaine d'autres États américains qui autorisent le cannabis à des fins médicales, ce qui nous fait penser aux prescriptions médicales d'alcool dans les années 1920, manière évidemment de contourner la loi. Donc on est à un moment tout à fait intéressant aux États-Unis d'interrogation sur les effets sociaux, mais aussi les effets économiques de la prohibition de ces drogues douces et également sur les effets de la prohibition sur le crime organisé, dont les revenus sont tirés en bonne part de la production et du commerce de différents produits opiacés et de drogues douces également.
Vous parliez, Pape Ndiaye, du développement des speakeasies, c'est-à-dire ces bars plus ou moins clandestins. Il y a un lien aussi avec l'essor du jazz qui est intéressant à noter.
Oui, car le grand développement du jazz dans les années 20 est inséparable finalement de la prohibition, c'est-à-dire de ces lieux clandestins, de ces bars clandestins ou de ces cabarets.
Le fameux country club, le hi-fi club, le cotton club.
Cabaret où l'alcool circulait plus ou moins librement et où les chanteurs de jazz venaient se produire.
Louis Armstrong dit « Jamais on a tant bu, tant joué, tant écouté ».
Oui, Armstrong arrive à Chicago en 1922 avec l'orchestre de King Oliver et il se produit précisément dans des lieux où l'alcool circule et où une certaine liberté aussi, où américains blancs et noirs se mélangent, où l'alcool circule, ce qui produit un monde finalement ouvert, libéral, qui est favorable au grand développement du jazz. Donc peut-être que sans la prohibition, le jazz ne serait pas aussi populaire aux États-Unis, ne l'aurait pas été en tout cas dans les années 20 de la même manière.
Le rapprochement n'est pas tout à fait incongru avec le cannabis, pour ne pas parler de drogue plus forte.
Il est sûr que le cannabis et d'autres drogues ont donné naissance et ont accompagné des développements musicaux très importants depuis les années 60. Il y a des liens entre la musique et puis les expérimentations autour de produits illégaux que l'on connaît, et c'est vrai depuis les années 20.
Tout cela fait surgir à côté de la légende du méchant Al Capone, la légende du bon Elliot Ness, qui à l'écran incarne dans des séries connues, et surtout dans le film de Brian De Palma, qui remonte à 1987.
À la demande de la municipalité de Chicago, le gouvernement fédéral, et plus particulièrement le ministère des Finances, ont décidé de lancer une opération exceptionnelle pour endiguer le trafic d'alcool et la violence qui en découle.
Monsieur Ness,
et en
pourquoi
quoi va consister cette opération ? Assisté d'autres fonctionnaires des finances, je travaillerai en coordination avec les services de police de Chicago. Et cette collaboration...
C'est pas encore une opération fantôme destinée à noyer le poisson.
Que pensez-vous de la prohibition, monsieur Ness ?
Est-ce que vous buvez, monsieur Ness ?
Allons, monsieur Ness, répondez à la question.
Oui. Non, ce n'est pas pour noyer le poisson. Et je vais vous dire très exactement ce que je pense de la prohibition. Je pense que la loi, c'est la loi.
Avez-vous l'impression de partir en croisade, monsieur Ness ?
Oui, est-ce que vous... Quelles compétences particulières pensez-vous avoir pour accomplir cette mission ?
Vous avez des ambitions politiques, monsieur Ness ?
Est-ce que vous croyez qu'El Capone...
Ça ira, messieurs, nous allons en rester là. Ça suffira pour...
Excusez-moi.
S'il vous plaît, reculez, messieurs.
Monsieur Ness, comment est-ce que vous allez vous y rendre ? Quels sont vos projets immédiats ?
Lisez les journaux si vous voulez en savoir plus.
Écoutez, si vous voulez, on marche ensemble. Je fais des articles sur vous, je trouve mon compte et vous aussi.
Monsieur Ness, lieutenant Alderson, brigade d'intervention. Vous voulez venir voir les hommes ?
Bien. Oui, j'arrive.
Évidemment, Elliot Ness et les siens sont les paladins de la vertu, mais dans le même temps, il est des Américains pour s'inquiéter de l'éventuelle mise en cause des libertés individuelles, puisque l'attitude est laissée à ces défenseurs de l'ordre. Et défenseur de la prohibition, par conséquent, à l'époque, l'attitude leur est laissée d'aller pénétrer assez profondément dans la vie privée des citoyens, alors que le quatrième amendement, si j'ai bonne mémoire, interdit les fouilles chez les particuliers, l'intrusion dans la vie privée.
Oui, il y a de quoi argumenter sur le caractère anticonstitutionnel de l'amendement de la prohibition de 1919 et de la mise en place de la prohibition. Les fouilles et les saisies dans les véhicules ou dans les demeures privées se heurtent en effet au quatrième amendement à la Constitution. Et pourtant, la Cour suprême de l'époque a laissé faire cette noble expérience. Beaucoup considéraient que finalement, il valait mieux s'engager sur ce chemin, quitte à prendre quelques libertés marginales avec les droits individuels des Américains pour mettre fin à ce fléau que représentait l'alcool. Mais incontestablement, la prohibition posait des problèmes juridiques. Sauf qu'elle a été votée politiquement et que sa fin n'est pas dû à une intervention de la Cour suprême, mais à l'élection de Franklin Roosevelt et à une nouvelle intervention politique dans un contexte très différent en 1933.
D'abord, il y a eu la crise, le sentiment que peut-être la prohibition peut avoir joué un rôle dans la dégradation de l'économie, c'est un point important. Et puis, la prise de conscience par les Américains, on le voit par des sondages, les premiers sondages qui peuvent avoir lieu, les premiers gallops, la prise de conscience que La loi, en somme, a échoué. Sur ces deux points, peut-être, on peut s'attarder un instant.
Oui, l'opposition à la prohibition grandit tout au long des années 20, au fur et à mesure que l'on se rend compte de ses effets catastrophiques, ceux dont on a déjà parlé. Par exemple, d'un point de vue économique, les fermiers, tous les producteurs de céréales qui entrent dans la composition et dans la fabrication du whisky, de la bière, sans parler des producteurs de vin en Californie qui produisent du vin de messe, mais enfin, ça ne suffit pas tout à fait. Il y a des régions qui souffrent considérablement, par exemple le Tennessee, là où on fabrique du bourbon de façon classique et tout à fait importante, et gravement touchée d'un point de vue économique. Donc il y a une mobilisation de ce côté-là, surtout que la Grande Dépression, évidemment, accroît les difficultés d'une partie importante de la population américaine. Et puis, parallèlement à cela, il y a aussi beaucoup d'Américains qui se mobilisent contre la prohibition, ce qu'on appelle les « wet », hein, les Américains humides, entre guillemets. Qui
en
sont
face des « dry », c'est-à-dire les secs.
En face des secs, qui mettent en avant les effets problématiques de la prohibition, le fait que les élites politiques continuent largement de boire, alors que ce sont les Américains pauvres qui meurent ou qui ne peuvent pas consommer d'alcool.
La ville contre les campagnes aussi.
En quelque sorte, en 1928, le candidat démocrate qui affronte le futur président Hoover, Al Smith, candidat très populiste qui a le verbe haut, et un candidat qui promet ouvertement la fin de la prohibition s'il est élu.
Le populisme a été dans un premier temps pour la prohibition, il évolue, et c'est significatif, contre celle-ci.
Il y a un courant du populisme américain qui a toujours été opposé à la prohibition, notamment du côté des mondes populaires ouvriers irlandais, par exemple, qui sont bien représentés à New York, à Boston et dans d'autres villes, qui n'a jamais été favorable à la prohibition et qui considérait que les militants de la prohibition avaient une dimension xénophobe, nativiste, qui ne leur plaisait pas pour des raisons évidemment politiques. Donc tous ces courants grossissent et puis la Grande Dépression accroît les difficultés, donne le sentiment que cette expérience de prohibition n'a aucun effet positif sur la société américaine qui s'enfonce dans la crise. Et Franklin Roosevelt, pendant sa campagne électorale de 1932, n'hésite pas à promettre la fin de la prohibition s'il est élu. Il est probable que cet argument de campagne ait joué un rôle dans la nette victoire qu'il remporte contre le président sortant, Hoover, qui lui était favorable au maintien de la prohibition.
Alors on peut espérer que le chef du gouvernement, qui règne à Bombay, écoute attentivement cette émission. Je suis sûr que notre ambassade là-bas va y pourvoir. Mais il est surtout intéressant, évidemment, de rapprocher cette réflexion historique avec les débats qui, aujourd'hui, entourent la question de l'éventuelle légalisation du cannabis. À la fin de notre conversation, que diriez-vous, Pam Diaye, sur les enseignements à cet égard qu'on peut tirer de cette étrange période des années 20 de la prohibition aux États-Unis, qui nous apparaissait difficile à comprendre, tellement loin, et qui néanmoins sont riches d'enseignements?
C'est riche d'enseignements puisque, à l'évidence, la prohibition a été un échec complet à tous les égards. La santé publique, les activités criminelles, l'économie du pays, les ressources budgétaires de l'État fédéral, des villes, etc. Et pourtant...
Échec de l'idée, au fond, que la société est indéfiniment malléable par des lois.
Oui, échec aussi de l'idée que l'on peut faire reculer une forme de consommation qui pose problème si elle est excessive, en effet, par l'interdiction. Et aujourd'hui, il y a évidemment des domaines, par exemple du côté du cannabis, où la prohibition stricte, qui trouve son origine d'ailleurs dans les années 30, avec la première loi de 1937, se trouve remise en cause par des États, particulièrement dans l'ouest des États-Unis, qui ont légalisé la consommation raisonnable et la détention raisonnable de cannabis. Le mouvement est en train de s'étendre. L'Oregon, par exemple, vient de le faire l'été dernier. À quoi s'ajoute une quinzaine d'États aux États-Unis qui autorisent la consommation de cannabis pour des raisons médicales, avec l'ambiguïté évidemment de cet argument si l'on songe aux très nombreuses prescriptions médicales qui fleurissaient dans les années 20 pour justifier la consommation de bière et d'alcool. Et donc, au fond, on se retourne aujourd'hui vers cette époque des années 30, ou des années 20 plus exactement, pour mesurer les échecs de formes d'interdiction radicale. C'est vrai pour le cannabis, c'est vrai aussi pour ceux et celles qui, dans beaucoup de pays, y compris aux États-Unis, où ils sont bien installés, militent pour l'interdiction totale du tabac. La consommation de tabac baisse, mais ça ne suffit pas. Et il y a des militants de ce côté-là, mais on leur rétorque que l'expérience de la prohibition de l'alcool dans les années 20 a eu les effets opposés à ce que l'on cherchait initialement.
On peut rappeler que les États-Unis, on l'oublie souvent ici, étant fédéraux, par définition, on peut faire des expérimentations, de même que certains États sont restés prohibitionnistes bien au-delà de 1932. De même, les expériences de légalisation du cannabis en sens inverse peuvent s'y développer. On regarde et puis on en tire les leçons.
Voilà, il y a une marqueterie juridique par laquelle, aujourd'hui encore, les règles concernant la vente d'alcool peuvent varier de manière importante. Par exemple, entre la Pennsylvanie, qui est un peu plus sèche que l'État de New Jersey voisin, et certains États ont conservé des législations de prohibition jusque tard. Le Mississippi, par exemple, jusqu'en 1966, interdisait la vente d'alcool. Et donc, il y a là une dimension juridique importante à prendre en compte, c'est-à-dire le caractère fédéral des États-Unis.
Merci Pam Diaye. Nous avons fait fond sur le livre de Jean-Pierre Martin qui s'appelle « La vertu par la loi ». Excellent titre, c'est bien ce dont il s'agit, ce que nous avons évoqué au cours de cette conversation. « La vertu par la loi », la prohibition aux États-Unis de 1920 à 1933, qui a été publié en 2002 aux presses universitaires de Dijon. J'ai également utilisé un livre en anglais de Daniel Okrent, O-K-R-E-N-T, sans le C de Christine Okrent, à qui je vais passer le micro tout à l'heure. Ce livre s'appelle Last Call, le dernier appel, The Rise and Fall of Prohibition, l'essor et la chute de la prohibition. C'est paru chez Scribner en 2010. Pourquoi le dernier appel, Last Call?
C'est le moment où les marchands d'alcool et de vin, quelques jours, quelques heures avant la date fatidique de la prohibition, le 17 janvier à minuit, vendaient tout leur stock et donc les Américains se précipitaient pour acheter une dernière bouteille, pour boire un dernier verre.
Et puis je rappelle que, outre plusieurs ouvrages importants, vous nous avez donné, en collaboration avec Andrew Diamond, c'est comme un diamant, c'est bon signe pour un collaborateur, vous nous avez donné Histoire de Chicago, paru chez Fayard, en 2013. Vous pourrez, vous le savez, trouver une bibliographie plus complète qui est sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter cette émission et, faut-il dire, la podcaster. Une auditrice me propose de dire audieliser, je ne sais pas si c'est un audiel, comme on dit courriel, je ne sais pas si ce mot va faire floresse. Samedi prochain, nous parlerons de la vieillesse telle qu'on la voit hier et aujourd'hui. C'est un thème de toujours et mon invité sera Georges Vigarello. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guérou. Une émission réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Jacques Hubert, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et Gwen Michel pour les archives INA. Et dans quelques instants, je vous le confirme, Christine Okrent pour Affaires étrangères.